Soyez les bienvenus ce dimanche matin, Tendance Confidence. Nous allons continuer de parler en ce temps de carême, de ce temps de préparation à la fête de Pâques, à la fête de la résurrection célébrée par les chrétiens. Et pour nous parler de ce sujet et de ce temps, j'ai invité aujourd'hui le Père Jacques Gomard. Merci de vous présenter aux auditeurs de Tendance Ouest.
Je suis prêtre catholique, donc vendéen d'origine, actuellement en mission pour la communauté de l'Emmanuel, qui est une communauté catholique internationale. Et je suis plus particulièrement au service des prêtres de cette communauté, donc je visite des fraternités de prêtres en mission dans différents coins de France.
Ce qui vous amène aussi en Normandie?
Ça m'amène parfois en Normandie, oui, j'y suis passé il n'y a pas si longtemps, et j'aime beaucoup.
Alors notre vie est rythmée par des secondes, des minutes, des heures et aussi des années. Nous connaissons tous l'année civile. Et l'Église catholique a aussi son propre calendrier, une année liturgique qui commence avant Noël.
Et oui, elle a son calendrier, alors qui commence au premier dimanche de l'Avent, donc 4 semaines avant Noël, et qui se poursuit jusqu'au dimanche du Christ-Roi, qui est en général le dernier dimanche de novembre.
L'Église a aussi son temps ordinaire pour mieux apprécier les temps plus extraordinaires.
Exactement, hein, c'est vrai qu'on pourrait se contenter d'aller de temps fort en temps fort, mais en fait les temps forts sont là pour nous aider à mieux habiter le quotidien. L'ordinaire, c'est là où se joue l'extraordinaire, on pourrait dire en jouant sur les mots. Les temps forts sont là pour mettre en lumière ce qui est présent en fait au long de l'année. Et lorsqu'on est entré dans le carême, il y avait cette belle prière. On dit qu'on veut commencer par une journée de jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Vous voyez, donc le carême est vu comme un entraînement en fait pour le reste de l'année. Et donc ça nous rappelle que l'essentiel se joue dans le quotidien. Et donc les temps forts comme le carême, comme l'Avent, sont là pour nous réveiller et nous permettre de mieux vivre le quotidien au fil des jours.
Alors si l'Église catholique a donc son calendrier liturgique pour les différents temps de préparation à ces fêtes, la fête de Pâques n'a pas lieu tous les ans à la même date, même si ça a lieu le dimanche. À quoi doit-on ce changement de date?
Alors Pâques est toujours un dimanche, mais ce dimanche varie. En fait, il est fixé en fonction à la fois du calendrier solaire et lunaire. Donc ça varie d'une année sur l'autre, et ce qui fait que le temps ordinaire entre le temps de Noël et le carême varie de 2 à 4 semaines selon les années.
Alors, entre carême et ramadan, il y a des similitudes?
Alors bien sûr, on pense au jeûne, même si la façon chrétienne de vivre le jeûne est différente, mais le carême est vraiment complètement orienté vers Pâques. En fait, on ne peut pas comprendre le carême de façon juste si on ne voit pas d'abord que Pâques est au centre, la fête de la résurrection de Jésus, qui est surtout le moment de la célébration des baptêmes. Et donc le carême prépare en fait les catéchumènes, les futurs baptisés adultes, à recevoir le baptême. Et pour ceux qui ont été baptisés petits, ce qui est le cas de beaucoup, eh bien c'est l'occasion de réveiller un peu sa vie chrétienne, de retourner aux sources de son baptême.
Alors je ne sais pas si vous pratiquez ce sport qui est le ski, Père Jacques Gomard. Nous parlons d'une technique qui est la technique de la conversion pour changer de direction. Mais encore faut-il savoir vers quelle direction aller pour ne pas perdre le nord lorsqu'il s'agit de trouver le bon sens pour sa vie.
Alors en fait, il faut prendre conscience que nos vies sont tissées de différentes dimensions, et donc il ne s'agit pas de tout changer tous les ans, sinon effectivement on finirait par avoir la tête qui tourne. Mais il y a dans nos vies des choses qui ne sont pas ordonnées, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le bon sens. Et donc le carême est là pour nous aider, comme dit un chant que l'on a pendant ce temps liturgique, à rassembler nos forces vives dispersées. Vous voyez, on a en nous plusieurs potentialités, on a des désirs, on a des capacités, et parfois ça part un peu dans tous les sens. C'est pas toujours orienté vers les autres, c'est pas toujours orienté de façon juste aussi pour moi, ce n'est pas toujours constructif pour le bien commun, pour la société. Et donc le carême est là pour nous aider à nous recentrer, à nous unifier, et pour pouvoir être davantage nous-mêmes au fond, plus humains, donc plus chrétiens pour ceux qui le sont, en tout cas plus à même d'aimer, et de répandre cet amour en actes concrets autour de soi.
Mais au menu du carême, c'est quand même exigeant, hein, le jeûne, c'est-à-dire la privation, le partage et la prière. L'un alimente l'autre.
Oui, c'est les trois grands moyens de carême. Quand commence le carême, il y a la liturgie du mercredi des cendres, et on entend cette page d'évangile au chapitre 6 de saint Matthieu, où Jésus lui-même invite à vivre ces trois grands moyens. Mais alors il invite à les vivre dans le secret, non pas de façon ostentatoire, voilà, pour se faire mousser auprès des autres, mais à vivre vraiment une démarche d'abord d'intériorité, hein. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, dit le prophète Joël. Et ces trois moyens, effectivement, se tiennent. C'est-à-dire que si je jeûne, je vais créer de l'espace, en fait, hein. Jeûner, c'est se priver. Alors, de nourriture, d'abord, c'est bien de... Le jeûne, c'est la prière du corps, c'est prier avec son corps, ça a beaucoup de sens. Alors, avec justesse, en fonction de sa santé, de son âge, bien sûr. C'est là où le jeûne chrétien n'est pas tout à fait le jeûne du Ramadan, hein. C'est-à-dire que jeûner pour un chrétien, ce n'est pas s'abstenir de toute nourriture et de toute boisson entre le lever et le coucher du soleil. Jeûner, c'est modérer sa nourriture. Donc, c'est vraiment travailler sur ce qu'on appelle la vertu de tempérance. C'est un seul repas sobre, simple dans la journée. Voilà, pour justement créer de l'espace. C'est-à-dire que ce que je ne mange pas, eh bien, je peux le transformer en aumône, en partage, en don. Donc je m'ouvre à l'autre. Et puis le temps que je ne prends pas pour me nourrir ou pour un repas plus court, eh bien, je peux le consacrer à la prière. Donc, le jeûne crée de l'espace. Et comme dit le pape François dans son message de carême, il nous fait aussi expérimenter la condition des pauvres. Et donc je découvre que moi aussi je suis pauvre. Je touche les limites de mon corps. Ah tiens, j'ai faim. Ah tiens, ça me manque de ne pas prendre ceci ou cela. Et bien ça me rappelle que je ne suis pas tout puissant, que j'ai mes limites, et ça m'aide à entrer dans une attitude d'humilité, vous voyez, qui me tourne vers le Seigneur et vers les frères.
Et vous reprenez ce mot, hein, que nous avions employé tout à l'heure, à savoir se tourner vers la conversion, mais s'y tenir, c'est un travail de chaque instant.
Voilà, il s'agit effectivement d'inscrire notre bonne volonté dans le temps, dans la durée. Et c'est vrai que c'est un effort, hein. Et c'est pour ça que le carême ne peut pas se vivre sans la grâce de Dieu. C'est pas un exercice sportif, c'est pas une performance artistique, mais c'est vraiment un chemin de conversion, de changement de ce qui dans nos vies n'est pas encore justement ordonné, orienté dans et par l'amour. Et donc il s'agit, voilà, d'y prendre ces moyens concrets, mais en demandant l'aide du Seigneur, voilà, et surtout l'aide des frères. Ce qui est beau dans le carême, c'est que c'est une aventure commune. C'est toute l'Église qui entre en carême, hein. C'est pas un chemin de régime individuel où moi je vais faire ça parce que j'en ai besoin ou pour mon bien-être, mais c'est toute l'Église qui est invitée à faire corps dans cette démarche de conversion, pour que le corps ecclésial, eh bien, soit purifié, revigoré et puisse témoigner dans le monde.
Alors, une tradition culinaire reste quasiment toute l'année, à savoir le vendredi, jour du poisson. Mais est-ce que pendant ce temps de carême, est-ce que l'un des régimes pour lequel nous pourrions nous tenir toute l'année, c'est celui du régime des médisances, non ?
Dans son message du carême, le pape François dit bien qu'on peut faire l'aumône d'une bonne parole, voilà, et jeûner effectivement des médisances, de toutes ces paroles négatives qui dénigrent, qui humilient, qui blessent. Jeûnons de ce type de paroles-là et faisons l'aumône, partageons des paroles bienveillantes, aimantes, valorisantes. Voilà, tout à fait, ça c'est une façon très concrète de vivre le carême, hein. Et c'est pas si facile que ça finalement, hein, de s'abstenir dans une journée, de ne pas critiquer les autres, vous voyez. Ça veut pas dire de ne pas avoir d'esprit critique, hein, mais de ne pas critiquer, de ne pas dire du mal. Ça c'est une vraie façon de vivre le carême que d'avoir des paroles bonnes.
En première partie, nous avons parlé du menu du carême, où nous pouvons trouver ces trois mots de prière, de jeûne et de partage. Ça ne met pas forcément en appétit pour se mettre en route. C'est aussi l'école de l'exigence, ce menu.
Le carême est un temps qui réveille aussi notre courage. Hein, on est dans un monde, effectivement, où on a beaucoup de moyens, même si on est dans un monde qui souffre aujourd'hui et qui est limité. Mais on a quand même beaucoup de moyens et un certain confort, il faut bien le reconnaître, pour la plus grande partie de la population, même si, encore une fois, beaucoup n'ont pas ce qu'il faudrait. Je trouve que le carême est là pour nous ramener à une certaine sobriété, un certain courage, à un essentiel. Et en fait, il s'agit de se désencombrer, voilà, de sortir de ses canapés, c'est pour reprendre l'expression aussi que le pape François aime bien, et de se mettre en marche pour se tourner davantage vers les autres, vers ceux qui ont besoin, et pour servir, voilà, et en ressaisissant le meilleur de soi-même.
Pourrions-nous dire que le carême, ça serait aussi de se priver de quelque chose pour mieux s'ouvrir à la dignité de l'autre et à la dignité de la vie.
Exactement. C'est ça le sens du partage et du jeûne. C'est bien de le faire dans le cercle des proches, mais c'est bien aussi d'avoir le cœur large et catholique, hein, universel, selon l'étymologie, et donc de donner pour des gens que je ne connais pas. Et il y a beaucoup de propositions qui sont faites, hein, dans les paroisses, les diocèses, en ce temps de carême.
Alors, j'ose cette question, Père Jacques Gomard, qui fera naître la liberté de votre réponse ou de votre silence. Est-ce que vous avez choisi votre effort de carême pour cette année ?
Oh, bien, il y en a plusieurs, parce que alors moi, j'ai beaucoup de choses à convertir. Mais écoutez, dans l'alimentation, j'en ai un exemple simple. Voilà, je m'abstiens d'alcool pendant tout le carême. Pourtant, j'aime bien le verre de vin rouge de la culture française. Mais voilà, du coup, c'est un petit point concret.
Un autre point qui peut être difficile ou exigeant ou impossible à vivre, c'est la dimension du pardon. Est-ce que vous-même, Père Jacques Gomard, vous faites une distinction, et quelle est-elle, si oui, entre l'oubli et le pardon ?
Le pardon n'est pas l'oubli, hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, qui sont marquées dans notre mémoire, dans notre chair, parfois pour les personnes blessées. Et donc, il ne s'agit pas d'oublier. Le pardon, c'est vraiment un choix de donner plus d'importance au présent et à l'avenir qu'au passé. Vous voyez, c'est vraiment arrêter de marcher à reculons, on pourrait dire, en regardant ce qui a été douloureux, ce qui a été mal vécu, à juste titre, bien souvent, pour décider que finalement le présent et l'avenir ont plus d'importance. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas simplement aussi par l'effet d'une décision, il y faut du temps. Pour nous chrétiens, nous croyons que la grâce de Dieu, c'est-à-dire le don que Dieu nous fait, eh bien, peut nous y aider et rendre cela possible. Et le carême est un temps où les chrétiens essaient justement de se convertir et donc de demander aussi le pardon de Dieu pour ce qu'ils reconnaissent avoir mal fait, volontairement, ce qu'on appelle un péché, de façon à en être libéré et avoir un cœur plus libre, plus large, pour aimer mieux.
Dans la loi civile, il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et par rapport au droit canonique, à partir du moment où une conscience est éclairée, on peut devenir coupable de quelque chose, de ne pas faire le bien.
Quand on demande pardon, dans la tradition liturgique, on demande pardon pour ce qu'on a fait par action, en pensée ou par omission.
C'est-à-dire omission.
On peut avoir oublié, on aurait pu faire du bien et on ne l'a pas fait parce qu'on n'y a pas prêté attention ou on l'a oublié par négligence. Voilà, donc on n'est pas simplement, j'allais dire, responsable du mal qu'on a fait, mais on est aussi responsable du bien qu'on n'a pas fait et qu'on aurait pu faire.
Comment trouver les mots, les silences ou les paroles, les gestes qui conviennent pour exprimer un pardon?
Alors c'est très délicat, hein, et c'est vrai que il faut que chacun y aille avec ce qu'il est. Je crois que c'est l'attitude intérieure la plus importante, c'est la simplicité, hein. Si on commence à mettre des obstacles dans son propre esprit, ça va rendre la démarche encore plus difficile. Je crois qu'il faut dire les choses en disant « je » tout simplement, hein. Voilà, je pense t'avoir offensé, je t'en demande pardon. Ce qu'il faut éviter, c'est le excuse-moi ou je suis désolé, voilà, ou je m'excuse. Vous voyez, comme si finalement je suis à la fois le coupable et celui qui pardonne, donc tout repose sur moi, c'est très auto-centré. Ça, c'est pas juste parce que la blessure a affecté l'autre et donc l'autre a son chemin à faire. Il le fera peut-être pas au même rythme que moi, mais en tout cas, moi je peux dire ma disposition intérieure. J'ai pris conscience du mal que j'ai fait, je le reconnais, je t'en demande pardon.
Peut-on parler de miséricorde lorsque des personnes font l'insoutenable? Et vous voyez bien de quel dossier je peux vous reparler,
oui,
comme la pédocriminalité.
Bien sûr, bien sûr. Quand on parle de miséricorde, on n'oublie pas la justice. Il n'y a pas de miséricorde sans justice, hein. La justice fait partie de la miséricorde, mais la miséricorde, d'une certaine façon, va plus loin que simplement la stricte justice. Mais la stricte justice est nécessaire, hein. Et effectivement, sans doute que trop souvent, dans une culture chrétienne, ou trop facilement, on s'est un peu exonéré des exigences de la justice au nom de la miséricorde, mais d'une miséricorde mal ou comprise de façon trop floue.
Et Père Jacques Gomard, ce que vous dites à l'instant est lourd de sens quand nous pensons à toutes ces personnes qui sont victimes de la violence.
Oui, je le crois. Et puis l'Église aujourd'hui le travaille, hein, très sérieusement. Le pape François l'a rappelé très fortement dans la lettre au peuple de Dieu, au cours de l'année de la miséricorde aussi. Les évêques de France travaillent aussi beaucoup ces questions-là depuis quelques années, en lien avec des personnes victimes, hein, de prêtres pédocriminels notamment. Donc il y a des prises de conscience salutaires qui se vivent.
Avec vous, nous parlons de ce temps de carême qui dure 40 jours, qui est ouvert donc le mercredi des cendres, qui se termine le jour de Pâques. Avec vous, continuons de parler de ce moment, de cette semaine qui précède la fête de Pâques, qu'on appelle la semaine sainte. Nous y reviendrons d'ailleurs avec vous. Parlons plus précisément du dimanche des Rameaux qui précède le dimanche de Pâques.
Oui, c'est tout le paradoxe de cette semaine sainte, hein, qui nous fait passer effectivement de la grande popularité de Jésus du dimanche, hein, où il est accueilli comme le Messie, Hosanna au fils de David, et puis où il va être quelques jours après condamné, crucifié, ce qui est le supplice suprême, hein, réservé aux esclaves, et vraiment le plus infamant pour un juif, hein, puisque le livre du Deutéronome dit « Maudit celui qui est suspendu au bois ». Donc même religieusement, c'est très dur, non seulement physiquement bien sûr, mais aussi religieusement et symboliquement. Jésus est exclu au sens propre, hein, puisqu'il est effectivement crucifié hors des murs de Jérusalem.
Et quelle versatilité de la foule. Jésus est acclamé, quelques jours plus tard, il est condamné, mis à mort.
Alors oui, versatilité de la foule, qui nous renvoie à notre propre versatilité, Moi, je suis le premier, effectivement, à dire je crois en Dieu le dimanche à la messe, hein, avec l'assemblée, avec la communauté rassemblée. C'est facile d'être chrétien dans une messe. Hein. Est-ce que je dis toujours je crois en Dieu, je suis disciple de Jésus dans, quand je suis sollicité par un pauvre, quand je suis bousculé? Ou est-ce que là, c'est le vieil homme et la lâcheté et qui prennent le dessus? Parfois, malheureusement, ça arrive, vous voyez. Donc, une chose est de constater la versatilité de cette foule. Autre chose, et je crois que c'est ça finalement l'essentiel, c'est de prendre conscience que mon cœur d'homme est aussi versatile. Et que donc, année après année, carême après carême, semaine sainte après semaine sainte, et bien avec ce lent travail patient de conversion, avec la grâce de Dieu, je peux devenir de plus en plus fidèle. Voilà. Il y a une force intérieure qui peut grandir en moi, et il y a une liberté intérieure qui peut grandir en nous.